l'épée et l'énergie, et de l'énergie que vous allez développer à l'intérieur de votre corps et vous projeter à l'extérieur. La raison pour laquelle on choisit une épée plutôt qu'un bâton ou un balai, c'est qu'une épée est acérée. Elle représente la noblesse, la force légitime. Ces concepts sont profondément ancrés dans cet objet. Le cerveau s'en accommode fort bien, l'esprit aussi. Il y a une connexion positive entre ces deux niveaux. Ouais. Dépend de ce qu'on aime dans la vie. Quoi. Parce que justement, des affinités, ça dépend. Ça peut être variable, je pense. Question. Comment créer le sabre de lumière? Tout d'abord, il faut faire le vide dans votre esprit. Vous asseoir sur une chaise ou par terre en demi-lotus, les mains placées en position méditative. Je ne sais pas ce qu'il appelle demi-lotus. Pour moi, je fais un lotus, mais pas faire la moitié d'un lotus. Vous commencez à visualiser l'énergie de la pièce, une lumière blanche. Vous la voyez qui se déplace vers vous et qui vous remplit. Vous allez commencer à prendre de profondes inspirations. Vous allez placer vos mains comme si vous teniez une épée. Vous allez prendre cette énergie et la projeter comme si elle figurait une épée. Le type d'épée importe peu. Ça peut être une machette, un katana, le sabre laser de Luke Skywalker, ce que vous préférez. Vous allez maintenant brandir cette épée comme si elle émanait de votre énergie inférieure, de votre chi. Vous la tendez devant vous comme si elle mesurait un bon mètre et ensuite vous la dirigez vers l'extérieur en visualisant une toile qui vous relie. Vous allez ensuite faire un moulinet au-dessus de la tête et vous pouvez la voir couper la toile comme si c'était du caoutchouc, avec des morceaux qui tournoient autour de vous à mesure que vous les coupez. Vous coupez au-dessus, sur les côtés, derrière vous. À mesure que vous découpez cette toile avec votre énergie, vous vous concentrez sur l'épée et utilisez votre imagination pour en percevoir tous les détails et les effets produits sur vous. Après avoir fini de couper toutes ces toiles qui étaient reliées à vous, vous aurez un sentiment de soulagement, de détachement, comme si la pression des autres ou leur énergie qui avait une emprise sur vous était défaite. C'est comme si vous aviez coupé les liens qui vous unissaient à eux. D'où l'utilité de l'épée, c'est la manière de s'en servir. Question, est-ce que vous devez toujours faire tourner l'épée avec vos mains? Oui, et la raison pour laquelle on recommande de se servir des mains, c'est pour affirmer une réaction physique, car votre corps est en quelque sorte infecté. Donc en stimulant la visualisation conceptuelle d'une épée entre vos mains, on renforce le lien mental qui permet au cerveau d'aider l'esprit dans la diffusion d'énergie autour de vous. Question. Est-ce que l'épée peut avoir un effet sur la matière physique? Elle a une base énergétique, mais il se peut qu'il n'y ait aucune énergie émanant de vos mains. Cela dépend du degré de contrôle que vous avez sur votre énergie. Il s'agit plutôt d'un rituel ou d'un concept si clairement défini qu'au final, votre énergie sait qu'elle doit défaire ses liens. Elle sait que vous essayez de vous défaire de quelque chose qui ne devrait pas être là ou qui y est sans votre permission. Donc, il s'agit davantage d'une communication avec votre énergie interne et votre moi biologique. On lui donne un nom, une structure ainsi qu'un but bien précis. Et c'est ce à quoi elle réagit. Question. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur un chakra spécifique? À nouveau, le chakra inférieur. Une grande partie de votre défense corporelle est associée au chakra inférieur, la région du chi. C'est assez évident, car il existe 7 chakras. Si on considère les arts martiaux, l'énergie gravite principalement autour du chi, parce que le chi a un lien très fort avec le physique et le spirituel par opposition au chakra du cœur, qui possède une vibration plus élevée. Et votre esprit vibre également à une fréquence élevée. Il y a tellement d'émotions qui vous affectent physiquement et d'un point de vue énergétique que la plupart des mécanismes de défense pour ce genre d'exercice se situent au niveau du chi. Question. La taille de l'épée est-elle limitée? Vous ne voulez pas trop être dans la représentation. Il y a des gens qui veulent avoir l'épée la plus grande, une épée de 3 mètres étincelante et redoutable. Vous voulez rester réaliste, car votre esprit possède une certaine idée de la réalité. Si vous pensez à une épée que vous pouvez saisir entre vos mains, elle doit mesurer à peu près 1,20 m, peut-être 90 cm. Plus votre vision de cette épée sera réaliste, et mieux votre cerveau réagira à ce que vous faites. Vous me suivez? Il vous dira: Ok, c'est réalisable. Si vous créez une épée lumineuse, éthérée, faite de milliers de rubis, etc., le cerveau prendra cela pour du dessin animé, ce qui ne soutiendra rien, en rien la démarche. Vous voulez être aussi proche de la réalité que possible, car c'est plus facile pour votre esprit ou votre cerveau d'évoquer une image qui reflète la réalité, quelque chose qui soit tactile ou que votre main puisse toucher, car cela lui donne une base de données à partir de laquelle il peut créer ce concept. J'ajouterai que si vous possédez une épée de collection, vous pouvez très bien vous entraîner avec, mais ce n'est pas indispensable. Concentrez-vous sur le concept autant que possible, c'est vraiment ça l'objectif. Question. Est-ce que vous dissuaderiez quelqu'un d'aller s'acheter une épée? Je pense qu'il est préférable de travailler à partir de la visualisation. Il s'agit davantage d'un concept visuel, mais si vous voulez vous familiariser avec, vous pouvez aller au magasin pour en voir une, en toucher une. Servez-vous de votre sens du toucher pour vous familiariser. Faites-le en fermant les yeux. Ce faisant, votre cerveau accumule de l'information. Et lors de votre pratique, vous essayerez de vous souvenir, d'évoquer cette sensation, cette structure. De la même façon, vous prendrez de la corde ou du caoutchouc dur pour ressentir et alimenter votre imagination, pour ainsi dire. Question. Si l'épée peut être utilisée pour couper ma toile personnelle, est-ce qu'elle peut également servir à couper celle de quelqu'un d'autre? Oui et non. À nouveau, cette personne possède ses propres intentions. Oui et non. À nouveau, cette personne possède ses propres intentions, ses propres vibrations, ses propres énergies. Ça reviendrait presque à lancer une attaque sur elle. Parce que cette personne n'est peut-être pas bien disposée à votre égard, ou pas consciente de vos bonnes intentions. Ou encore, elle a peut-être accepté cette réalité erronée, comme un état de fait. Donc, vous voilà en train de trancher, mais en face, on ne comprend pas forcément vos intentions. Vous me suivez? Donc, voulez-vous leur expliquer que vous êtes en train de faire quelque chose qui va libérer les énergies négatives, sans leur expliquer les détails? Maintenant, vous devez simuler leur énergie. Vous videz votre esprit et puis vous commencez à ressentir cette personne. Vous vous rappelez les sentiments qu'elle éprouve. Vous évoquez sa propre réalité. Vous l'assimilez. Tout comme un amant a une certaine odeur. Votre père et votre mère dégagent quelque chose. Ils ont une certaine présence. Vous voulez rendre les vibrations de cette personne aussi réalistes que possible pour pouvoir vous régler sur sa fréquence personnelle. Qu'elle soit tout près de vous, à des centaines de kilomètres, importe peu. Pour l'énergie, ça revient au même. Et à mesure que vous vous projetez visuellement sur cette personne, vous vous calquez sur ses vibrations. Et c'est alors que vous commencez à couper dans la toile de la personne que vous voyez comme vous. En fait, vous projetez ce phénomène autour d'elle et les effets seront visibles. Si vous êtes concentré et conservez cet état sans faire intervenir le bavard ou toute distraction mentale, la qualité du résultat sera meilleure. Quand vous visualisez cette toile, combien de temps cela prendra-t-il à votre avis pour que la toile se reforme à nouveau? Je dirais que tout dépend des intentions des autres, les circonstances présentes dans votre vie. Mais en gros, si c'est votre première tentative, vous allez lâcher pas mal de choses qui sont accumulées au fil des années. Ce qui va se passer, c'est que ça peut vous surprendre, vous prendre en nu. Ce qui va se passer, c'est que ça peut vous prendre une semaine pour ressentir le contre-coup de tout ce lâcher-prise, parce que ce n'est pas toujours instantané. C'est comme dans l'Est. Nous avons ce lierre qui s'enroule autour des arbres et qui n'est pas endogène à la région. Il y a un groupe de gens qui essaient de redonner à la forêt son état naturel. Ils ont coupé toutes les racines de ce lierre et les ont laissées sur place. Le lierre n'a donc plus de nourriture pour s'alimenter et il étouffe les autres plantes parce qu'il prolifère tellement qu'il empêche les autres plantes et les arbres de pousser. Le lierre met du temps à se désintégrer, à disparaître. Ses effets sont persistants. Vous voyez ce que je veux dire? Notre cas est similaire. Il y a des éléments qui vont se désintégrer plus rapidement que d'autres. Une fois que vous avez réussi à contrôler cette énergie qui coule, qui vous colle à la peau, un entretien hebdomadaire suffira. Question. Est-ce que cette toile est uniquement reliée à la tête? Non, c'est pourquoi je vous dis d'aller dans le dos et sur les côtés. Il est évident que vous pourriez penser que ça vient d'au-dessus et que c'est relié à votre tête, votre dos. Je vous dirais la plupart du temps de vous tenir debout pendant ce processus. Ce qui importe, c'est de conserver votre conscience intacte dans sa structure et son ressenti. Votre esprit ne doit pas vagabonder. À nouveau, vous polissez les connaissances acquises dans Fondation qui vous permettent de maintenir un certain niveau de concentration. Vous voulez vraiment rester fixé sur votre visualisation et votre objectif, en créant une vision détaillée de ce qui se passe. Question. Si on reprend la technique de la pyramide, est-ce qu'on peut associer les deux? Si tel est le cas, est-ce qu'il faut procéder dans un certain ordre? Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a des personnes qui préfèrent couper leur toile avant de créer une énergie extradimensionnelle. D'autres n'auront pas besoin de l'épée si leur pyramide fonctionne bien. Mais dans certains cas, vous pouvez en éprouver le besoin. Considérons cela d'un point de vue un peu différent. Tout ce qui se passe dans votre cerveau ou sur un plan psychologique, votre perception des choses qui vous arrivent dans la vie, votre relation aux autres, comment ils vous touchent émotionnellement, séparation, anxiété, quand vous faites ces rituels, votre cerveau apprend à lâcher prise sur ces choses-là. Votre cerveau fonctionne avec de l'électricité et de l'énergie. Votre psychisme s'oriente sur l'énergie. Ce n'est pas uniquement spirituel, c'est aussi de la biochimie. C'est autant organique qu'énergétique. Vous travaillez sur l'énergie, mais votre cerveau biologique est également affecté et vice-versa. Certaines de ces ficelles peuvent aussi représenter des états mentaux auxquels votre esprit est relié à la suite d'expériences dont vous voulez vous libérer. Des relations, des émotions associées à quelqu'un dont vous voulez vous détacher. Dans ce cas précis, il ne s'agit pas à proprement parler de quelque chose que quelqu'un vous a fait. Ça peut très bien venir de vous. Vous savez que vous devez lâcher prise, mais vous n'y arrivez pas. Le cerveau est conçu de telle sorte qu'il cherche à retenir certaines choses. On a des images mentales de certaines personnes et en leur absence entraîne un état dépressif et de l'anxiété. Quand on retrouve leur image mentale ou qu'on en entend le son de leur voix, il se produit une décharge chimique dans le cerveau qui nous détend et nous stabilise. C'est quelque chose de terrible à vivre. Quelque chose de terrible à vivre. Surtout si vous savez que la personne ne vous convient pas ou si vous êtes dans une relation abusive. Quand vous visualisez votre relation comme une ficelle, vous suggérez au cerveau, sur un plan biochimique, de lâcher prise également. C'est un outil qui n'est pas standardisé, un concept qu'on ne trouve pas dans les thérapies traditionnelles. Mais c'est très efficace. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe. C'est comme les phénomènes de guérison. Il y a des gens qui prétendent être de grands guérisseurs dans certaines tribus et même dans nos pays, mais leurs pratiques sont totalement frauduleuses. Mais parce que leurs destinataires sont tellement convaincus, un changement s'opère. sur une autre dimension, entraînant leur guérison. Leur cerveau est tellement convaincu qu'il se produit un changement au niveau cellulaire. Cela se passe sans intervention occulte importante, mais le corps réagit à une telle vitesse qu'il permet de restructurer les choses. C'est comme si le lien avec la maladie, par exemple, avait été rompu. Vous comprenez ce que je dis? Il peut également s'agir d'une relation, d'une situation psychologique. Vous apprenez en fait au cerveau qu'au lieu de subir cette réalité, vous pouvez communiquer avec lui d'une façon alternative, en vue d'un lâcher-prise. Vous lui dites comment lâcher prise car il ne sait pas le faire. Vous me suivez? Donc il y a une communication qui s'établit à plusieurs niveaux. Mais ça relève plus du domaine psychologique que spirituel. Ce que serait la pyramide d'un point de vue énergétique? Vous pouvez être relié à l'énergie d'une personne qui n'est pas bonne pour vous sur un plan spirituel parce qu'il y a un fort ancrage biologique. Ça vous donne un deuxième outil extrêmement puissant pour aborder le processus de guérison. Et quand vous coupez la toile, est-ce qu'il était important de rechercher ou de visualiser des liens négatifs spécifiques? Vous pouvez adopter plusieurs points de vue. Vous considérez votre intention générale, qui est de couper dans le négatif, jamais dans le positif. L'énergie positive est assimilée à de l'énergie éthérique, à de la lumière, et vous ne pouvez pas vraiment la couper. Elle ne vous arrive que si vous le désirez autrement. Vous ne l'apercevez pas. Elle ne vous arrive que si vous le désirez. Autrement, vous ne l'apercevez pas. Vous serez affecté par des éléments négatifs qui se manifestent dans votre esprit comme une construction. Vous définissez sa hauteur, sa tonalité pour pouvoir vous en débarrasser. Vous la faites apparaître de façon concrète, comme une fréquence sur laquelle vous vous réglez. Comme pour une radio. Une fois que vous êtes réglé dessus, vous pouvez en faire l'expérience. Vous pouvez chercher le négatif ou le positif. Et ce faisant, vous réagirez en fonction de cela. Combien de temps faut-il pratiquer cette technique? Vous le saurez. Je dirais pas plus de 30 minutes, peut-être 45 minutes. Cela dépend de vous. Dans certains cas, ça prend 5 minutes. Si votre concentration est bonne. Je n'insisterai jamais assez là-dessus, mais tout le monde oublie ce point essentiel. La clarté de votre objet de concentration est essentielle. Donnez des détails, de l'émotion. Donnez-vous le sentiment de lâcher prise émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez des indications à votre cerveau qui soit chargé d'émotions qu'il comprendra, pas de mots. Ne lui dites pas ce qu'il est supposé ressentir. Créez des sentiments au sens figuré. Et donnez-leur une réalité pour que le cerveau les accepte. Et c'est quelque chose qui marche très bien pour des questions très précises. Si vous voulez vous détacher de quelqu'un, visualisez ce lien, créez ce lien, regardez-en les fibres et le matériau dont il est composé. C'est quelque chose dont il faut que je me détache. C'est quelqu'un qui me fait du mal. Et observez le lien se rompre. Voler en éclats. Et cette attache n'existera plus. J'ai maintenant le pouvoir de me défendre, je vais me protéger. Je possède l'outil ultime pour me défendre et je saurai que je ne dois plus me laisser maltraiter. Vous laissez votre cerveau ressentir ses émotions sur un plan symbolique et vous serez capable de purger ces éléments ancrés dans la biochimie de votre cerveau. C'est comme si vous créiez les récepteurs adéquats pour diffuser ce programme. Question. Donc vous dites qu'on peut utiliser cet outil pour couper des liens négatifs hérités de vie antérieure. Des vies antérieures de l'enfance, tout est possible si vous voulez lâcher prise. Il n'y a aucune limite. Ça peut inclure de la maltraitance, même un passé qui vous fait du mal. Vous êtes prêt à avancer. Vous avez dirigé, mais il vous faut lâcher prise. Ce n'est pas comme si vous en aviez oublié le souvenir, mais vous devez vous défaire du programme qui continue à affecter négativement votre état d'esprit. Le fardeau que vous portez et la façon dont cela affecte votre personnalité. Donc, vous travaillez sur le lâcher prise. Vous devez vous donner le temps nécessaire. Ne pensez pas que tout arrive instantanément avec cette technique. Mais c'est virtuellement instantané, car ça peut prendre des semaines ou des mois, alors qu'une thérapie peut durer des années. Question. Quand un lien est brisé, est-ce qu'on ressent un sentiment de soulagement à ce moment-là? La plupart du temps, oui. Dans d'autres, vous ne sentez pas le soulagement immédiat, parce qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas encore prêt à lâcher prise. Il vous faudra peut-être y travailler une fois par jour ou une fois par semaine, mais au bout du compte que vous le ressentiriez. Mais au bout du compte, vous le ressentirez. Devrez peut-être revenir à l'attaque, plusieurs fois à l'attaque, car ça ne veut pas lâcher. Il y a une partie de vous qui ne veut pas lâcher, mais si vous continuez à le harceler et ça finira par casser, se dissiper, c'est sûr. Mais vous devez faire preuve de régularité, comme je l'ai déjà dit. La constance est ce qui pose problème, toute technique confondue. Sans régularité, vous ne pouvez pas accomplir grand-chose. En remettant chaque jour votre ouvrage sur le métier, vous serez victorieux sans l'ombre d'un doute. En remettant chaque jour votre ouvrage sur le métier, vous serez victorieux sans l'ombre d'un doute. Ouais. Est-ce qu'un effet peut se produire à l'autre bout du lien si la personne en est en relation avec vous? Ça dépend. Si cette personne a un lien avec vous, elle ressentira que vous êtes renforcé. Ça dépend. Si cette personne a un lien avec vous, elle ressentira que vous vous êtes renforcé. Les gens possèdent une connaissance intuitive qui leur permet de ressentir l'emprise qu'ils exercent sur vous. S'ils perdent cette emprise, ils ressentiront cette perte de contrôle. Quand vous aurez défait ce lien avec l'outil adéquat, vous vous renforcerez et vous éviterez de le reformer. Mais à nouveau, vous devez écouter votre voix intérieure. Les personnes concernées le sauront même si vous n'êtes pas en leur présence. Ils sentiront que quelque chose a changé. Ils ne pourront peut-être pas dire consciemment « Oh, voilà ce qui se passe » ou peut-être que si. Mais ils éprouveront un sentiment qui leur fera dire « Oh, je crois que je viens de perdre cette personne ou l'emprise que j'avais sur elle, tout du moins. » Ou quand ils seront en votre présence, ils sentiront qu'ils ont perdu ce lien avec vous, ou qu'ils s'affaiblissent rapidement, et ce sera intuitif. Question. Dans l'éventualité où vous rencontrez une entité, est-ce que l'épée peut jouer un rôle comme un mode de défense? Absolument. On aborde ici un autre niveau de défense énergétique qui concerne les fondamentaux de l'épée. L'épée est une extension de votre énergie vitale. C'est une extension de la prana, de votre être associé à la force divine, de votre conscience, de votre énergie organique. C'est un mélange de tout ça. Donc, quand vous interagissez avec une entité pour assurer votre défense, vous utiliserez votre propre fréquence énergétique contre la sienne plutôt que votre corps physique organique. Donc, la réponse est oui, mais nous développerons au cours de nos prochaines discussions au sujet de défense énergétique. Technique numéro 3, les chakras. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'utilisation de l'énergie dans un rôle de défense? Presque toutes les formes de défense occulte seront orientées dans la région énergétique du chi. À nouveau, tout comme pour les arts martiaux, il y a un lien entre l'attaque physique et l'utilisation de l'énergie dans cette région. Ils méditent, font des exercices respiratoires dessus, parce que c'est le point le plus proche du plan physique. Donc toutes les fois que quelqu'un puise de l'énergie en vous, si vous le sentez, retenez votre énergie à l'intérieur. Si vous voulez repousser l'énergie de quelqu'un, vous allez aspirer de l'énergie avant de la repousser mentalement. Il faut juste inspirer dans vos chakras et projeter votre énergie à l'extérieur, à l'expire. Tout le monde comprend? Il y a une technique toute simple quand vous êtes dans une pièce où vous ressentez de mauvaises vibrations d'entité ou autre. Donc la technique toute simple. Vous faites le vide en vous, vous inspirez dans vos chakras et vous ressentez alors un changement automatique, une sorte de petite démangeaison, c'est très fort. Ce sentiment de puissance vient de vous, donc vous inspirez, attirez l'énergie et à l'expire, vous pouvez ressentir comme une poussée qui sort de vous. C'est à la fois une défense et une attaque occulte, mais c'est aussi votre façon de gérer les entités négatives. Elles vont ressentir cette vague d'énergie que vous expulsez. En ce qui nous concerne, nous ne ressentons pas grand-chose sur un plan physique, car nous sommes protégés dans notre corps physique. Mais en ce qui concerne le champ énergétique d'une entité, elle ressent ça comme une tonne de briques. Et pour créer cette énergie, pas la peine d'être un expert en art martial pour comprendre cela. Plus vous faites cela avec intensité, c'est comme ce qui se passe lors d'un combat d'arts martiaux. Le chi d'un combattant peut atteindre son adversaire et le projeter à travers la salle, ou l'empêcher de bouger. Quelqu'un a réussi à développer ce type d'énergie de façon significative. Quelqu'un qui a réussi à développer ce type d'énergie de façon significative ne bougera même pas, pas même si son adversaire le repousse des deux mains. Quelqu'un qui a réussi à développer ce type d'énergie de façon significative ne bougera pas même si son adversaire le repousse des deux mains. Si tout un groupe de personnes essaie de repousser quelqu'un qui est concentré sur son chi, il n'y arrivera pas. Ce qui se passe, c'est qu'on peut attribuer cela à un bon sens de l'équilibre. Mais pas totalement, ok? Ok? Ce qui se passe réellement au niveau énergétique, c'est que le chi est si proche de l'énergie physique contenue dans vos muscles qui fait qu'ils se tendent et se rétractent, que ça annule littéralement le signal entre le cerveau et les muscles de votre corps. Ce qui se passe réellement au niveau énergétique, c'est que le chi est si proche de l'énergie physique contenue dans vos muscles qui fait qu'ils se tendent et se rétractent, et que ça annule littéralement le signal entre le cerveau et les muscles de votre corps. Ce qui se passe, c'est que vous essayez de leur dire de pousser, mais vos muscles reçoivent un autre signal qui les empêche de tendre et de se contracter. Ils ont ordre de se bloquer. Donc, c'est ce qui se passe avec l'énergie du chi sur un plan physique. Si vous arrivez à mobiliser une telle quantité d'énergie pour faire face à des entités, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Vous avez affaire à des énergies subtiles. Ce qui se passe, c'est que vous essayez de leur dire de pousser, mais vos muscles reçoivent un autre signal qui les empêche de tendre et de se contracter. Ils ont ordre de se bloquer. Donc, c'est ce qui se passe avec l'énergie du chi sur un plan physique, si vous arrivez à mobiliser une telle quantité d'énergie. Pour faire face à des entités, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Vous avez affaire à des énergies subtiles. Il faut que vous compreniez que vous êtes capable de créer cette énergie et de la déplacer à l'extérieur de vous. C'est comme un ballon relié à un élastique. Vous le lancez et il revient vers vous. Et vous l'attrapez à nouveau, ok? Quand vous inspirez dans votre chi, c'est comme une onde que vous repoussez avec vos mains avant de la ramener à vous. C'est comme une extension de vous-même, mais à un niveau énergétique vibratoire. Et parce que c'est tellement proche de votre corps physique, de votre champ énergétique et de votre champ énergétique, il est facile pour votre cerveau et votre esprit d'en saisir le concept. C'est très efficace. Si vous deviez utiliser cela sur un tout autre chakra, l'effet serait différent. Donc l'utilisation de l'énergie du chi est une excellente façon de traiter avec les entités occultes. Si vous sentez une présence dans votre chambre que vous ne voulez pas, il vous suffit de la repousser avec votre souffle. Voyez l'énergie sortir de vous et vos muscles de la tête se contracter. Poussez avec tout votre corps. Et sentez la tension musculaire. Et visualisez ce flot d'énergie qui sort de vous. Je peux vous garantir que cela aura un effet dévastateur sur cette entité ou sur tout autre esprit que vous voudrez atteindre. Faites-moi confiance. Voilà donc une façon d'agir contre une agression occulte. C'est donnant-donnant d'un point de vue énergétique. Si une entité décide de vous attaquer, elle a une base énergétique et une certaine fréquence. Cette fréquence ne peut pratiquement pas affecter un objet physique. C'est pourquoi la plupart d'entre elles passent à travers nous et que nous nous ressentons comme un chatouillis à leur passage. Si une entité décide de vous attaquer, elle a une base énergétique et une certaine fréquence. Cette fréquence ne peut pratiquement pas affecter un objet physique. C'est pourquoi la plupart d'entre elles passent à travers nous et que nous ressentons comme un chatouillis à leur passage. Si elles arrivent à harmoniser suffisamment leur énergie entre elles, elles peuvent nous manipuler pour que nous pensions avoir été touchés. En de rares occasions, ça ressemble aux personnes qui arrivent à se scarifier parce qu'ils ont une telle croyance psychologique que ça peut arriver. Il existe des études où des gens ont des gonflements sur le corps, qui saignent, se couvrent de plaies ouvertes, sans que rien ne les ait touchés. Mais dans leur cerveau, c'est tellement réel que les cellules de leur corps se mettent à réagir en mimétisme des pensées qu'ils ont créées. Tout cela est étayé par des recherches scientifiques. Lesquelles? Alors bien sûr, lesquelles, moi. Si une entité arrive à stimuler suffisamment votre énergie, vous n'aurez pas une plaie ouverte, mais vous allez ressentir une petite décharge musculaire. Il va vous bloquer tout comme le ferait un cheval rétif. Ça gonfle et ça durcit. C'est le cerveau qui envoie, mais le corps répond de façon opposée. Pour résumer, dès que vous allez dans la région du chi, il y a un changement énergétique. C'est comme un champ de force extradimensionnel que l'entité ne peut pas pénétrer. C'est impossible. En expirant, vous faites entrer l'énergie pranique. Et tout comme vous l'avez appris dans le cours d'introduction, vous allez la transformer en une énergie toute particulière. Et parce que c'est un composé à la fois physique et énergétique, votre corps peut travailler avec. C'est comme l'extension d'une armure, comme dans les dessins animés japonais, où il y a quelqu'un à l'intérieur d'un robot. Et quand vous bougez la main, d'une certaine façon, toute la masse corporelle du robot bouge de concert. Comme si elle pouvait déplacer 20 tonnes. Donc, vous vous voyez au milieu de ce champ énergétique et grâce à votre concentration, vous pouvez faire bouger votre corps d'une certaine façon et personne ne peut vous atteindre. Parce que ces personnes cherchent à vous atteindre sur un plan physique et ils sont en position de faiblesse quand ils essaient de manipuler ce niveau de réalité. Vous êtes axé sur cette dimension car vous en faites partie d'une certaine façon. C'est ce qui vous donne l'avantage sans le savoir. Okay. Dès que vous commencez à vous concentrer sur cette énergie et que vous envoyez que vous l'envoyez vers l'extérieur, quand vous bougez votre main, elle est projetée sur une distance de 1,50 m à 1,80 m, créant ainsi une onde d'explosion énergétique. Mais il vous est difficile de conserver cette projection parce que votre esprit va ressentir le besoin d'inspirer à nouveau, comme quand vous retenez le souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez envoyer des poussées d'énergie vers l'extérieur sans pour autant ressentir le reflux, car cela se fera automatiquement, sans que vous y pensiez. À mesure que je vous parle et que je vous fais cette démonstration, je commence à ressentir une sorte de montée de chaleur paranormale. C'est ce que fait le chi. Et pareil pour les gens qui pratiquent, mais eux intériorisent l'énergie pour travailler dessus. Nous en reparlerons. Quand vous avez affaire à une entité ou toute énergie négative, vous voulez la disperser. Vous êtes constamment en relation avec votre énergie inférieure, votre chi. Vous l'inspirez et expirez cette énergie. Est-ce que ça s'apparente? Est-ce que ça s'apparente à plus à une poussée mentale? Ou est-ce que le résultat dépend davantage de la poussée physique? Quand vous ajoutez une poussée physique, votre croyance est renforcée et permet à votre énergie de se projeter. Il faut la voir se propager dans la pièce. Croyez tout simplement et vous deviendrez plus fort. Vous me suivez? Si vous ne voyez qu'à l'extrémité de vos mains tendues, l'effet sera tout autre. C'est à nouveau un équilibre entre la réalité de ce que vous pouvez faire sur un plan physique et son dépassement par l'imagination. Mais ça devient réel parce que vous travaillez sur l'énergie. Des gens ont étudié comment voir l'aura. Quand vous regardez votre main, vous pouvez voir l'aura autour. Dans de nombreux cas, je veux enseigner comment voir l'aura. Ce que je fais, c'est que je la fais grandir et je leur dis de me prévenir quand ils la voient. Et ensuite, je la ramène à sa taille initiale. Vous avez peut-être des expériences similaires, peut-être fait des expériences similaires. Il n'y a pas que moi qui puisse faire cela. Il s'agit simplement d'inspirer et d'agrandir certains chakras, de les visualiser, puis de ressentir ce qui se passe. Il faut juste croire que c'est possible. Autrement, votre cerveau vous empêche de faire ces choses-là. Le cerveau est le gouverneur. Comme nous disons souvent, il impose des limites. Donc, il vous faut pousser les limites du gouverneur en le trompant un peu. Et après avoir utilisé ce stratagème plusieurs fois, il accepte cette réalité, ce qui vous permet d'accroître vos capacités. Vous avez dit auparavant qu'on pouvait utiliser cette technique pour attirer une entité en soi. Comment ça peut se faire et pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Ce n'est pas ce que je recommanderais pour la plupart des gens. Et je ne suis pas très chaud pour en parler. Allons donc. En certaines occasions, je peux intégrer une entité. Ce que cela signifie en termes simples, car ça paraît bien plus inquiétant que cela n'est en réalité. Comme je vous l'ai dit auparavant au sujet de la pyramide, quand mon énergie est heurtée par une énergie négative, elle agit comme un filtre. Elle agit comme un filtre et je conserve un centre de pure énergie. Alors que toutes les mauvaises intentions programmées dégoulinent sur les parois externes de ma pyramide. Comme un auto-nettoyage et j'augmente mon énergie à l'intérieur, ok? Une entité négative, pour pouvoir fonctionner dans cette réalité, doit fonctionner de la même façon que nous. Par exemple, nous devons visualiser une armure qui nous enveloppe et un champ énergétique que nous inspirons par nos chakras pour nous renforcer avant de les affronter. Eh bien, ces entités font pratiquement la même chose. Si elles veulent se déplacer dans notre dimension et nous atteindre, elles ne peuvent rien faire avec leur niveau normal d'énergie. C'est comme un signal FM ou télé. Il existe, mais on ne peut pas faire grand-chose dessus sans les outils nécessaires. Elle consomme donc une énergie, une sorte d'énergie similaire à celle de notre chi pour construire une énergie qui soit plus physique pour agir effectivement sur cette dimension. À partir de là, il y a une technique qui demande beaucoup de savoir-faire. Et à nouveau, je ne la recommanderai pas à tout le monde. Ce que je peux faire en présence d'une énergie négative, c'est l'absorber littéralement en moi. On peut virtuellement assimiler toute son enveloppe, son armure, l'aspirer à l'intérieur de soi et en recracher tous les rebuts qui émanent de cette fréquence. J'appellerai cela l'offensive musclée d'un être spirituel. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage. Comme je vous l'ai déjà enseigné, la possession est impossible parce que vous possédez une fréquence spécifique représentée par un algorithme totalement unique. Mais si vous absorbez quelque chose, vous allez tout de suite avoir peur et vous dire « Qu'est-ce qui va se passer si cette chose me possède ?» Je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas que ce soit possible et on peut passer la journée à en discuter. Ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas absorber l'énergie, mais vous allez l'aspirer et en rejeter les scories. La seule chose dont vous devez vous soucier, c'est de sa programmation. Si elle est programmée, c'est comme un virus qui infecte un ordinateur. Vous ne voulez pas intégrer ce programme pour avoir ensuite des tas de problèmes psychologiques. C'est pourquoi je ne cautionne pas cette démarche pour la plupart des gens. Je contrôle si bien mon énergie que même si j'absorbais un virus, je saurais l'éjecter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se passe très rapidement chez moi, ok? La plupart des gens n'ont pas encore ce degré de conscience. Donc je dis, contentez-vous des méthodes traditionnelles, elles sont superbement puissantes et c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment très rare que j'aie affaire à une entité dans ce genre de conditions. Avec suffisamment de pratique et d'expérience, vous saurez quand vous serez capable de le faire. C'est une connaissance intuitive. Ça n'a rien à voir avec l'ego. Quelquefois, quand vous avez affaire à de nombreuses entités négatives, ça vous permet de limiter les incidences où elles pourraient vous nuire. Donc, dans certains cas, c'est nécessaire. Quand vous faites cela à une entité, vous la tuez en quelque sorte. Et ça va lui prendre beaucoup de temps pour se reconstruire énergétiquement parlant. Les effets seront traumatisants, mais ce n'est que lui rendre la monnaie de sa pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas détruite, je ne l'ai pas tuée, mais je lui ai certainement donné une bonne leçon. Quelle est la différence entre se concentrer sur un chakra pour se défendre par opposition à méditer dessus? La méditation a un objectif bien précis. C'est un entraînement pour intégrer un niveau de pureté énergétique et cette énergie peut être utilisée pour se défendre. Mais ce que vous faites, c'est que vous construisez des réserves énergétiques que vous pourrez mobiliser à tout moment. C'est comme la batterie d'un ordinateur. Si ce dernier tombe en panne de courant, vous avez toujours 1 heure de batterie en réserve. Donc cette réserve d'énergie que vous accumulez facilitera l'obtention de facultés paranormales. Vous alimentez votre sixième sens. Vous devez faire de l'exercice physique pour entretenir votre corps. En ce qui concerne le sixième sens, il requiert toutes ces énergies subtiles pour bien fonctionner. Donc, vous augmentez vos réserves d'énergie non seulement pour combattre, mais pour un grand nombre de choses. Ces réserves énergétiques et éthiques que vous avez accumulées renforcent votre champ énergétique et votre conscience. Si vous le vouliez, vous pourriez réagir avec une poussée d'énergie sans même avoir besoin de puiser dans ces réserves. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien mieux préparé pour faire face à ce genre de situation parce que vous possédez toute cette réserve d'énergie accumulée en vous. Question. Est-ce que les autres techniques de choc sont utiles pour se défendre? Pas nécessairement, mais oui. Vous pouvez être très, très créatif. C'est comme un film de fiction ou un événement de science-fiction. Vous pouvez prendre un être nuisible et vous pourrez réellement lui inoculer un virus de la même façon que vous-même vous êtes susceptible d'en attraper un. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous pouvez programmer ce virus en allant dans le chakra du cœur pour faire surgir cet amour inconditionnel et le faire éclore comme une fleur. Ce concept peut vous paraître ridicule, mais vous devez comprendre que l'énergie fonctionne en termes d'émotion. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez une spirale d'amour inconditionnel dans cette énergie haineuse et négative, et elle va l'intégrer. Comme je vous l'ai déjà dit, vous recevez l'émotion qu'on vous envoie, vous l'intériorisez. Votre cerveau vous permet de conceptualiser une émotion que vous allez ressentir. Donc vous faites juste le contraire vis-à-vis d'une entité négative. Au lieu d'imposer une charge de négativité sur vous, elle se met à intérioriser vos émotions. Cela la calmera, même selon le degré d'intention que vous avez mis dans votre envoi. Elle aura l'impression de se rendre paisiblement et aura peut-être assez de clarté au fond d'elle-même pour se rendre compte qu'elle a réagi de manière incontrôlée. Cette prise de conscience peut lui faire changer de tonalité ou de vibration. Technique numéro 4, le son. Vous parlez souvent de vibrations. Peut-on utiliser les vibrations sonores dans un but de défense ou d'attaque énergétique? Travailler avec le son est une autre technique utilisée pour servir la conscience. Certains sons et vibrations font que notre esprit ressent les choses d'une certaine façon. Le son est un projectile. Nous avons tellement l'habitude de nous en servir comme outil de communication qu'inconsciemment, dans notre cerveau et dans notre esprit, nous l'utilisons comme projectile. Par exemple, nous pouvons dire le son « home ». Les personnes qui pratiquent ce son s'aperçoivent qu'il pénètre l'environnement. C'est comme quand vous projetez une énergie sur un objet. Donc si je dis « Om », il y a une projection d'un ressenti qui vient de moi. A priori, ce son n'est qu'une vibration. Il ne peut pas affecter quelque chose d'extradimensionnel. Mais le sentiment que j'ai intériorisé est projeté vers l'extérieur au même moment. Et les deux sont associés de façon à affecter les personnes sur un plan physique, alors que d'autres le ressentiront sur un plan extradimensionnel. Donc je pénètre les murs, le canapé, le coussin de mes intentions. Des intentions emplies, bien entendu, de sentiments d'harmonie, de paix, de clarté. C'est comme quand vous méditez et que vous essayez de vider votre esprit. Vous obtenez la même chose en émettant ce son Om. À nouveau, le secret dans tout cela, c'est l'intention. Quelles sont vos intentions quand vous faites cela? Si c'est de dire Om pour que les gens s'endorment, ça pourra peut-être marcher. Il y a certaines intentions qui ne fonctionnent pas du tout avec le son parce que nous les percevons ainsi. Donc, vous essayez d'amplifier la vibration que vous envoyez sous forme d'énergie en concrétisant la conception ou la fonction de l'intention que vous avez en tête. Vous pouvez dire, si je tape des mains, supposons qu'il y ait pas mal d'énergie négative autour et que je veuille en débarrasser la pièce. Ce que je ferai, c'est que je me déplacerai dans la pièce en prenant toute cette énergie à l'intérieur de moi et je taperai des mains avec l'intention que ce bruit est une onde de choc qui enlève l'énergie négative autour de moi. Donc, quand j'ai tapé, quelle a été la réaction des gens présents? Ils ont reçu ce bruit dans leurs oreilles, comme un choc. J'en ai conscience et vous en avez conscience. Donc, vous devenez tous une matrice qui renforce cette onde de choc. C'est ainsi que j'interprète l'effet que je pourrais avoir sur les entités. Je veux qu'elle sache que je suis là. Vous feriez mieux d'avoir peur. J'arrive. Ce que je fais, c'est que je lance un ordre avec une intention qui se confond avec le son sur une fréquence extradimensionnelle qui émane de moi au même moment. C'est une émission et le présentateur dit Hey! Et ces mots vont affecter les entités aussi bien que les personnes. Donc le son peut dans certains cas avoir un effet sur des éléments extradimensionnels. Le rythme de base est très dérangeant pour les entités. Je pense que cette affirmation est à la fois vraie et inventée. En Afrique, on communique beaucoup avec les esprits et les entités. Et ça fait sens, car ces peuples veulent conserver leur famille autour d'eux. Mais à cause de leur culture, il y a des entités qui sont assez négatives. Donc ils jouent des rythmes de base. Donc ils jouent des rythmes de basse qui sont renforcés par des croyances psychologiques qui sont diffusées. Je suppose sur des fréquences extradimensionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Le rythme a une force de pulsation qui nettoie, comme une sorte de programme qui nettoie les objets. Le rythme des djembés, par exemple, a une certaine vibration qui rejoint les vibrations extradimensionnelles, d'une façon ou d'une autre. De même, vous avez les moines bouddhistes avec leurs grandes cornes dans lesquelles ils soufflent et font beaucoup de bruit dans l'intention de repousser les entités. Vous verrez qu'il y a un peu de vrai dans la plupart de ces choses-là. Et ici, certains rythmes sont et certains sons ont certainement un effet sur l'environnement. Donc, si vous êtes dans une maison hantée et que vous branchez des haut-parleurs qui diffusent de la musique avec un rythme de basse, vous pourrez peut-être nettoyer cet endroit en une journée ou deux. C'est juste une autre méthode pour vous permettre de vous servir de certains outils. À nouveau, le but de défense énergétique est de vous proposer plusieurs options. Les ondes de choc du boom sont composées, d'après moi, d'une accumulation d'énergie. Donc, dans une maison qui renferme une grande quantité de ressentis, si on diffuse de la musique boum, 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 cela va affaiblir la programmation en quelque sorte. Faire un grand nettoyage comme quand on utilise du sel. Mais il s'agit ici d'une autre méthode. Je pense que l'orage associé à la foudre et à l'électricité de l'air, le boum avec la foudre, produit un effet purificateur sur les vibrations environnantes. Même chose à l'occasion des fêtes nationales, avec les feux d'artifice et les pétards. On peut obtenir des effets similaires à cause d'explosions sonores. En Chine, les pétards sont réputés éloigner les esprits, par exemple. Je pense que la Terre étant un organisme biologique, ces phénomènes servent à maintenir un équilibre dans l'environnement. Il y a une chose intéressante concernant la conscience collective. Quand les gens qui font du télémarketing appellent une certaine région ou une certaine ville, ils reçoivent quelquefois un mauvais accueil. Les gens n'achètent pas et les envoient balader. Ce qui se passe, c'est que la campagne commerciale est abandonnée pendant quelque temps et qu'au lieu de s'acharner à appeler ce secteur, ils se tournent vers une autre zone où ils font beaucoup de ventes. C'est comme s'il existait cette conscience collective qui se déplace géographiquement. C'est en quelque sorte un ensemble de nerfs et synapses sur la planète de tous les êtres humains. Ce sont des ondes de conscience qui se déplacent d'un endroit à un autre, qui touchent peut-être des dizaines de milliers de gens d'une même communauté. Quel est le lien avec le grondement, ce boom dont je parlais plus tôt? Mon idée, c'est que les émotions sont aussi programmées, pas seulement chez les gens ou dans des vêtements, mais à tout niveau que ce soit. Ça peut couvrir un état entier ou un comté. Le grondement de la foudre représente un moyen pour la nature de purifier les secteurs qui ont peut-être accumulé des vibrations très négatives qui commencent à imprégner cette zone. Ça permet à la nature de la dégager pour éviter de créer un barrage comme le ferait un tronc d'arbre en travers d'une rivière. Donc l'origine du son n'est pas nécessairement en vous, mais si vous voulez programmer un son, vous devez en être la source, n'est-ce pas? Si vous voulez en programmer un, il doit venir de vous, oui. Pouvez-vous programmer un son autrement que pour vous défendre? À nouveau, on revient à la créativité. Tout est possible. Ça dépend de votre créativité à ce sujet. Si vous pensez à une belle musique quand une personne vous chante une belle chanson, qu'est-ce que cela vous fait? Ça vous touche. Vous pouvez penser que ça vient uniquement de ce que vous entendez, mais c'est toute une expérience qui s'offre à vous. On ne reçoit pas tous les effets d'une musique diffusée à la radio, mais je pense qu'à un niveau psychologique, la musique communique avec le cerveau, qui à son tour nous la renvoie décodée à travers toute une expérience émotionnelle. Ce n'est certainement pas aussi efficace que la vraie musique, et vous n'obtenez peut-être pas la même intention. Mais je pense qu'à un certain niveau, une communication s'établit qui est plus importante que la surface des mots. Même dans mon cas personnel, quelquefois j'écoute une musique que j'adore sans même faire attention à ce que les mots veulent dire. Donc il se passe deux choses en même temps. Il y a quelque chose qui parle à mes émotions et c'est généralement comme cela que mon esprit fonctionne. Et c'est ce que je considère le niveau ultime de la communication. Et puis quand les mots arrivent, ils ne correspondent pas toujours à ce qui est dit. Et ça ne vient pas uniquement du sens des mots, mais également de l'octave de la voix émise. Ce n'est pas seulement spirituel, mais c'est quelque chose qui affecte votre cerveau et qui devient spirituel, car ça se déplace vers un niveau de conscience supérieur. Question. Est-ce qu'on retire un bienfait spécifique si on se concentre sur un chakra précis lors de la programmation d'un son? Oui, absolument. Vous pouvez développer un sentiment d'amour avant de le projeter. Vous pouvez construire un sentiment chargé d'énergie, l'inscrire dans une poussée et le projeter. Donc oui, associer les deux renforce des effets, mais c'est bien sûr plus difficile à réaliser. Question, le son est-il vraiment nécessaire ou est-ce que l'intention suffit? Eh bien, le son vous sert simplement de tremplin. Autrement dit, vous le renforcez avec votre cerveau pour qu'il traverse toutes les dimensions. Plus votre cerveau sera familier avec ce concept à un niveau symbolique, et plus vous pourrez y associer d'éléments, meilleur sera le résultat, car il y aura moins de filtrage de la part du cerveau. Le gouverneur exercera une sélection moins rigoureuse. Est-ce qu'on peut programmer un son autour de sa maison? Comme quand quelqu'un tourne le bouton de la porte, est-ce que ce bruit peut diffuser une intention programmée? Je dirais que c'est trop compliqué. Oui, c'est possible, mais si vous commencez à faire des choses trop complexes, vous obtiendrez des effets décourageants. N'essayez pas de piloter un jet avant de savoir faire de la bicyclette. Développez-vous, encouragez-vous. Votre cerveau vous dit, ce n'est pas possible. ou ce n'est pas ce que notre réalité est prête à accepter. Donc vous commencez par en faire trop. C'est ce que les gens, et en particulier les jeunes, ont tendance à faire. C'est pourquoi vous n'obtenez pas les résultats escomptés, que vous jetez l'éponge pour retomber dans le dohé. Car vous êtes découragé. Progressez à petits pas. Soyez régulier, ne vous précipitez pas. Vous obtiendrez des effets bien plus profonds et plus surprenants si vous avancez progressivement et simplement au lieu de tout compliquer. Très juste. Petits pas. Pas à pas, on devient soi. Me disait mon ami gourou qui habite dans les Cévennes. Question. Il s'appelait Shiva. Quelles sont les applications les plus utiles de cette technique? Vous pouvez rendre visite à quelqu'un chez lui ou louer une maison pour le week-end et vous voulez tout simplement disposer de l'énergie des précédents occupants qui étaient peut-être très négatives. Vous êtes peut-être sur le lieu. Vous s'est passé une grosse dispute. Vous l'ignorez, mais vous le ressentez. Vous dites assez. Vous devez vous défendre et repousser toute cette énergie négative avant qu'elle ne vous submerge. Et une fois que la situation est stabilisée, vous pouvez commencer la programmation à un autre niveau. Voilà donc une méthode. L'utilisation du son a également des effets thérapeutiques. Travailler avec le son est quelque chose de très naturel pour nous. Je pense que si les gens pouvaient dépasser leur gêne, leur timidité, ils iraient beaucoup plus loin. On n'a pas besoin d'avoir une belle voix. On peut simplement fredonner et faire sortir des émotions. Ça peut sembler bizarre, mais seul chez vous, vous pouvez relâcher certains sentiments emprisonnés à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi utiliser cela pour projeter des vibrations dans toute votre maison. Le son purement émotionnel qui sort sans parole est bien plus spirituel que quand on chante ou que par les mots. Les mots sont liés dans notre cerveau à un mode de communication très formaté. Mais les sons peuvent diffuser une émotion tellement plus forte, et c'est ce que vous recherchez dans l'absolu. Peut-être qu'en toute intimité chez vous, vous voudrez relâcher ces sons qui sont en vous. Les sons qui ont une beauté pour vous. Et vous les diffusez chez vous à vos plantes, à vos murs. C'est la peur et notre société qui donne son pouvoir au dohé. Et nous sommes plus ou moins gênés de faire sortir ces sentiments ou de les projeter. On a honte et on évite les deux de relâcher. Vous voyez ce que je veux dire? On pense qu'on doit savoir très bien chanter avec du charisme, mais tout le monde possède un son dont il peut faire sortir la beauté. Libre à vous de le faire entendre. Ça vient de là. C'est l'union de votre âme et de votre corps physique. C'en est l'expression. Si vous voulez repeindre toute la maison avec, il vous faut juste le laisser sortir. La plupart des gens ne savent pas danser, mais secrètement, quand il n'y a personne, ils dansent à leur façon. Et ça leur fait un bien fou. Mais quand on est en société, on se dit, non, je ne peux pas faire ça. Donc on se contrôle et on se limite. La plupart des gens ne montrent qu'une apparence. Je dirais même que tout le monde fait semblant à un certain degré. Donc, si vous ne pouvez pas être vrai dans ce monde, essayez d'être qui vous êtes vraiment dans l'intimité. Vous découvrirez des choses sur vous-même que vous n'auriez pas imaginées. Et vous découvrirez plus de spiritualité que vous pourriez, que vous ne l'auriez pensé. C'est ce que j'essaie de vous dire. Je vous dis qu'au lieu de danser, asseyez-vous et laissez sortir des sons de vous. Fredonnez, bourdonnez. Trouvez une émotion et faites. Ouah. 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 Laissez ce son rouler. Et observez comme le ressenti est merveilleux. Ça vous parle intérieurement à la fois sur un plan physique et mental. Si vous êtes malade, mettez un son dessus et faites-le sortir. Laissez l'émotion agir comme une purge. Cette tonalité affectera les cellules de votre corps plus que les mots. La raison pour laquelle nous nous exprimons par des mots, C'est parce que nous avons appris que c'est la forme de communication acceptée socialement. Nous avons perdu la capacité d'intérioriser et de relâcher. Et c'est ce que vous de... et c'est ce que et c'est ce que vous devenir retenir de la technique du son dans défense énergétique. Et c'est ce que vous devez retenir dans la est-ce que c'est ce que vous devez retenir de la technique du son dans défense énergétique. Technique numéro 5, la position suprême des mains. Qu'est-ce que la position suprême des mains et quels sont ses effets? Il y a de nombreuses années, je me souviens avoir vu une image de Jésus et également une de Bouddha. Et par la suite, je me suis mis à rechercher des détails sur des photos ou des diagrammes de déités et d'êtres illuminés pour remarquer que dans ces peintures ou dessins, ils tenaient leurs mains de différentes façons. Au début, je n'ai rien remarqué de particulier, mais intérieurement, je savais que cela voulait dire quelque chose. Je ne sais pas comment ces artistes auraient pu avoir connu la moitié de ces gens-là et comment ces êtres tenaient leurs mains. Peut-être en avaient-ils lu une description dans des livres, donc il y a quelque chose derrière ça. Vos mains sont ce que j'appellerais un communicateur secondaire. Si vous essayez d'être conscient de vos mains pendant que vous parlez, leur mouvement possède un langage à part entière. Si vous placez votre paume en face de quelqu'un, dans votre culture, ça signifie arrête-toi une minute. Le message psychologique que j'envoie est stop. Il y a tout un langage associé aux mains qui est subliminal et dont vous n'êtes pas conscient. Donc votre esprit est réellement en train de communiquer par vos mains, sans que les gens y fassent vraiment attention. C'est une méthode de renforcement. Les bons orateurs, ceux qui passent vraiment bien en public, utilisent tout le temps leurs mains. Si je vous regarde dans les yeux, je prends mes mains comme ça et qu'est-ce que je fais? À l'émission d'une pensée, je les centre comme ceci, pour que vous approuviez. Donc les mains sont constamment en train de singer notre esprit, notre intention réelle en quelque sorte. Elles apportent une réponse plus sophistiquée, du moins si vous suivez ce qu'elles disent. Si je dis suivez ce que je dis, mes mains commencent à tourner, ce qui signifie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. À nouveau, il s'agit d'une forme de communication secondaire. Donc les mains sont constamment en train de singer notre esprit, notre intention réelle en quelque sorte. Elles apportent une réponse plus sophistiquée, du moins si vous suivez ce qu'elles disent. Si je dis suivez ce que je dis, mes mains commencent à tourner, ce qui signifie il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. À nouveau, il s'agit d'une forme de communication secondaire. Ceci étant dit, j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si on tendait les mains consciemment. Quand je dis « Soyez conscient, soyez vigilant », si vous tendez les mains devant vous en toute conscience pendant quelques secondes, ce que vous allez faire, c'est placer votre auriculaire et votre pouce ensemble. Vous allez prendre une inspiration en ressentant tout ce qui se passe, toute cette énergie subtile. C'est comme un piano. Vous renvoyez l'effet que vous produisez en tournant ce qui sort de vos mains, ce qu'elle communique vers votre esprit ou de votre cerveau à votre esprit plutôt que l'inverse. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on vous donne une clé pour travailler avec votre esprit et le renforcer sans que le cerveau en soit conscient. Vous passez par la porte de derrière, pour ainsi dire. C'est une porte que le cerveau a laissée ouverte sans le savoir. Il ne possède aucun moyen de défense pour la contrôler, car c'est réellement naturel. C'est tellement naturel qu'il vous faut simplement penser à cette technique. Donc, quand vous pratiquez cette technique, chaque fois que vous inspirez, vous allez ressentir une différente tonalité, un sentiment différent à l'intérieur. Plus vous pratiquerez ces différents niveaux de tonalité, en allant plus haut, plus bas, tout en respirant à travers chaque doigt un par un, plus vous exercerez votre esprit à s'ouvrir à la réalité de telle sorte qu'il affectera les choses avec davantage d'intensité. Par exemple, pour affecter la matrice, vous devez penser différemment. Vous devez être capable de projeter des émotions. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous entraînez à ressentir ces énergies subtiles qu'au début, vous ne pouvez pratiquement pas sentir. C'est comme lire du braille. Une personne aveugle qui commence ne doit ressentir sous ses doigts qu'une succession de petites marques en relief, sans arrangement précis, si ce n'est des lignes qui montent et qui descendent. Elle n'y comprend rien car c'est trop irrégulier. Mais à mesure que vous pratiquez ce type de lecture et que vous commencez à en saisir l'organisation, vous passez vos doigts dessus et des mots apparaissent dans votre esprit. Vous avez appris à développer un niveau sensoriel supérieur à l'intérieur de votre cerveau qui vous permet de communiquer ce que vous ressentez. Je répète. Donc ce que vous faites, c'est que vous entraînez à ressentir ces énergies subtiles qu'au début vous ne pouvez pratiquement pas sentir. C'est comme lire du braille. Une personne aveugle qui commence ne doit ressentir sous ses doigts qu'une succession de petites marques en relief, sans arrangement précis, si ce n'est des lignes qui montent et qui descendent. Elle n'y comprend rien car c'est trop irrégulier. Mais à mesure que vous pratiquez ce type de lecture et que vous commencez à en saisir l'organisation, vous passez vos doigts dessus et des mots apparaissent dans votre esprit. Vous avez appris à développer un niveau sensoriel supérieur à l'intérieur de votre cerveau qui vous permet de communiquer ce que vous ressentez. Dans ce cas précis, le fait de suivre cet ensemble de signes de cette façon apprend à mieux communiquer avec votre esprit dans cette dimension. Ou comment aller dans votre esprit pour émettre quelque chose en écartant, pour ainsi dire, le cerveau. Par exemple, si vous tendez vos mains et que vous placez votre pouce sur votre auriculaire, et que vous inspirez. Vous ressentez alors ressentir une certaine vibration très subtile au début. Puis vous passez au deuxième doigt, puis au troisième, puis au quatrième. À un niveau débutant, vous allez ressentir généralement l'index et le doigt le plus fort quand vous en servez davantage. Donc c'est ce doigt-là qui aura la meilleure connexion. Si vous y prêtez attention, à ce ressenti subtil secondaire. Maintenant, si vous considérez ce ressenti secondaire, vous vous direz peut-être qu'il ne sert pas à grand-chose, au contraire. Si vous le joignez à votre pouce en pensant au chakra du cœur et que vous inspirez, vous allez voir qu'il crée une énergie très harmonieuse. Donc il s'agit ici de faire l'expérience de ces différentes fréquences que vous pouvez créer. Mais elles ont une forte connexion avec votre moi émotionnel et conscient. Si vous voulez recharger votre énergie rapidement, comme quand vous méditez sur votre chi, votre chakra inférieur, vous joignez votre index et votre pouce et vous inspirez en vous concentrant dessus. À peu près au niveau du plexus solaire, jusqu'à vos oreilles, vous allez ressentir un changement très subtil, très protecteur. Comme cette énergie est très subtile au début, vous voulez vous asseoir et respirer sur chaque doigt, en vous concentrant sur votre ressenti au niveau de l'énergie. Vous vous tournez vers l'intérieur. Deuxième chose, tout est lié à la respiration. La plupart des exercices présentés dans Défense énergétique concernent l'inspire et l'expire. Repousser, c'est expirer. Alors absorber de l'énergie, c'est inspirer. Vous pensez juste à visualiser et vous absorbez l'énergie, mais vous ne pensez pas vraiment à votre inspiration. Le souffle, c'est prendre et donner. L'esprit travaille avec l'énergie de façon similaire. C'est quelque chose de très naturel qui vous aide à aspirer et à rejeter l'énergie. Donc, vous calez tout sur la respiration. Maintenant, si vous prenez vos mains et que vous videz votre esprit en vous servant de la respiration, vous allez vous apercevoir que vous arrivez facilement à déplacer votre champ énergétique à l'intérieur de votre corps, comme quand vous faites des étirements avant une activité sportive. Quand vous apprenez à travailler avec vos mains et avec cette énergie, vous arrivez à un point qu'on appelle la position suprême des mains. La position suprême des mains consiste à tendre votre index et votre majeur devant vous, votre pouce étant pointé dans sa direction naturelle vers le haut, alors que l'auriculaire et l'annulaire sont repliés et touchent la paume de la main, comme un pistolet si vous voulez. Une fois que vous avez intériorisé cette énergie, vous relevez les mains en inspirant avant de projeter l'énergie devant vous comme un jet. C'est assez unique car ça vient du chakra du cœur. Vous verrez des images du Christ faisant cela ainsi que d'autres êtres spirituels. Vous pouvez également faire tourner votre pouce. Vous verrez alors que tout devient étincelant. La bonté apparaît, une vibration supérieure. Un amour spirituel. C'est la clé vers une fréquence qui peut être diffusée. Et ça ne vient pas seulement de vous. C'est ce qui est unique. C'est comme si à ce moment précis, vous preniez l'énergie de la pièce entière et que vous étiez capable de tout condenser comme si vous méditiez tout seul. Au lieu d'intérioriser votre méditation et demeurer dans cette vibration, vous prenez tout l'environnement et vous le transportez en ce point. C'est très profond. C'est très difficile à réaliser si vous n'avez pas travaillé vos énergies auparavant. Mais avec un état d'esprit correct et harmonieux, vous pouvez projeter cette énergie devant vous ou dans votre environnement. Est-ce qu'il y a une différence si vous utilisez votre main droite ou votre main gauche? Pas nécessairement. Choisissez la main dominante, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Pourquoi doit-on placer la main dans cette position particulière? Cette position est certainement quelque chose de nouveau pour la main. C'est presque comme quand vous voulez faire un pistolet avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas automatiquement quand on pense au mouvement des mains. Il y a certainement une bonne raison à cela. Quand vos mains sont dans cette position, c'est pour la même raison que votre énergie subtile est déployée comme cela. D'une certaine façon, ça renvoie à la conscience, le système nerveux, une information qui est encodée dans cette vibration, une connaissance intérieure que vous relayez en quelque sorte sur un plan bien supérieur. C'est ce qui est diffusé et il y a un retour à cette réaction qui se passe en vous. C'est comme si vous disiez « Dieu, j'ai besoin de toi en ce moment » et Dieu répond présent et vous créez cette énergie dans l'environnement. Mais c'est extrêmement difficile à faire en comparaison à tout le reste. Ça prend énormément de concentration. Et à nouveau, je conseillerais aux gens de ne pas s'y précipiter avant d'avoir accompli tout le reste. Ce n'est pas un effet McDonald's avec une gratification immédiate. Ça requiert de grandes compétences, un état d'esprit très discipliné pour obtenir ces résultats. Je pense que quand vous y arriverez, si vous êtes dans une pièce obscure, vous pouvez rendre la pièce beaucoup plus lumineuse de façon significative. Question. Quelle conclusion sur défense énergétique? Non, je pense qu'on a tout couvert. Ce matériel comporte une quantité énorme d'informations qu'on peut développer en y apportant de la réflexion. Les possibilités sont illimitées. Et toute personne qui pratique l'enseignement de défense énergétique se renforcera et vivra une vie meilleure dans bon nombre de circonstances. C'est l'instrument ultime qui mène à la liberté spirituelle et à l'illumination. Exemple d'application par Claude Cléré. En guise d'illustration de ce qu'on peut attendre, je vous livre ici le témoignage d'un pratiquant de ce programme. C'est un cas extrême venant d'une personne avec une excellente sensibilité énergétique, mais il vous donnera une bonne perspective sur les phénomènes en jeu. Alors, je me suis concentré sur le dernier chakra, les mains en coupe. J'avais pensé imaginer un sabre de samouraï, mais c'est une épée avec une poignée en or et ciselée, avec un rubis incrusté et une lame qui était gravée de symboles que je n'ai pas pu identifier, qui s'est matérialisée. Les deux côtés de la lame étaient très tranchants, et l'épée m'apparaissait de temps à autre lumineuse. Cette épée se retrouva dans mon dos, glissée dans un étui. Je la fis sortir en la prenant par le haut des épaules, et je la mis devant moi. Je me vis embrasser la lame et la lever vers le ciel, comme si je la présentais à Dieu. Toujours assise, alors que cela faisait des années que je n'ai pas vu cette personne négative et que je ne l'ai vue en tout que 3 ou 4 fois, je vis très distinctement son visage qui m'apparaissait dans les moindres détails, comme si elle était réellement devant moi. Alors que j'avais pensé imaginer un ou deux gros câbles la reliant à moi qu'il fallait couper, je vis des cordons de chair, comme des cordons ombilicaux, nous reliant l'une et l'autre par tous les chakras. Incroyable. Mon guide était présent. Je commençais par l'intuition à couper l'un après l'autre, en commençant par le haut de la tête, ces cordons. En même temps que je voyais la lame trancher dans la chair de ce cordon, j'avais une réaction physique que je ne peux décrire. Je coupais chaque extrémité. Je sentais que cela était important, de couper de son côté et du mien. La seule différence est que ce trou laissé dans mon corps se cicatrisait et se refermait de suite, tandis que pour elle, il restait ouvert et saignait. L'horreur a été quand je suis arrivé au cordon du chakra du cœur. Il était d'au moins 20 cm de diamètre. Elle a mis alors ses mains devant, comme pour m'empêcher de l'atteindre. Je fis tomber la lame à la fois sur ses mains qui tombèrent, mais aussi le cordon. Je la vis avec les bras sans main. Lorsque j'ai fini, je vis des visages sortir de ce trou laissé par la coupure du cordon, dans un flot de sang, comme si des personnes avaient été avalées, gardées prisonnières, comme si cette femme s'était nourrie de ces gens. Il est impossible d'inventer une telle vision, même avec une imagination débordante. J'ai quand même bien les pieds sur terre. Quand je n'avais aucune sensation physique lors de la coupure d'un cordon, mon guide me disait « Recommence ». Je les vis s'éloigner loin de moi. J'ai continué jusqu'à la fin, puis je me suis levé comme vous me l'aviez indiqué. J'étais dans ma salle à manger, donc debout, les yeux fermés. J'ai eu la vision de moi au milieu d'une arène ou d'un amphithéâtre. Un lieu neutre en tout cas. Je vis des gradins et une assemblée d'anges habillés de blanc. Il y avait un trône dans lequel Dieu était assis, avec à ses côtés des personnages très importants. Ils étaient nombreux à un point. Puis je vis à l'opposé des anges noirs. J'étais au milieu de l'arène, face à cette femme. Nous allions nous affronter. De nouveau, je recommençais le rituel, sauf que je me déplaçais comme un samouraï en faisant bouger mon épée. Après avoir de nouveau tranché un cordon, j'embrassais de nouveau mon épée. Je la représentais à Dieu et je recommençais à trancher un autre cordon. Ce que je ne comprenais, c'est qu'elle ne faisait rien pour se défendre. Elle semblait pouvoir rien qu'en me pompant mon énergie. Par ses cordons de chair, m'empêcher de l'atteindre. Il n'en était rien, je l'ai mise en pièces. J'ai fait également ce rituel pour cette autre personne. Je l'ai refait aussi ce rituel pour couper les liens entre eux et ma famille. Je tranchais avec une facilité impressionnante, mais j'étais vraiment concentré dans un état second. Comme d'autres visages de gens qui m'ont fait beaucoup de mal se présentaient à moi, je coupais également les liens. Tous les cordons coupés dans le corps de cette femme laissaient des trous d'où sortait du sang. Puis je me mis à couper en morceaux, toujours avec l'épée, toujours. Tous les cordons tombaient au sol, comme si je voulais qu'elle ne puisse jamais se servir de ce moyen pour détruire les personnes qui ont le malheur de la rencontrer. Tous les cordons coupés dans le corps de cette femme laissaient des trous d'où sortait du sang. Puis je me mis à couper en morceaux, toujours avec l'épée, tous les cordons tombés au sol, comme si je voulais qu'elle ne puisse jamais se servir de ce moyen pour détruire les personnes qui ont le malheur de la rencontrer. Je vis les anges m'applaudir ainsi que mon guide. Physiquement, j'étais un peu fatigué. J'ai repris ma position assise et j'ai visualisé la pyramide. Tout s'est déroulé comme vous me l'aviez écrit, sans aucun effort. La pyramide s'est bien présentée et la couleur blanche était comme un brouillard lumineux que l'on ne peut décrire avec des mots. Tous mes chakras se sont mis à briller d'une lumière intense, comme si on me guérissait. J'ai eu la vision de mes enfants dans une pyramide qui les suit partout et qui s'agrandit lorsqu'ils montent dans une voiture ou rentrent chez eux. Pareil pour moi, c'était vraiment puissant. Exercice pratique. Avant de commencer, une information importante à propos de ces exercices. Plus vous choisirez de faire cette séance tout seul, en vous détachant de ces consignes, meilleurs seront vos résultats. Plus vous prendrez votre temps, plus votre expérience sera riche en détails, plus vous obtiendrez d'excellents résultats. J'insisterai sur le fait que, concernant la pyramide et l'épée, je ne fais que les aborder rapidement. Plus vous travaillerez, et avec en y ajoutant détails et émotions, plus les réponses que vous obtiendrez seront puissantes.